Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours de 10h à midi en direct. On est à la radio, on est à la télé, on est sur le web et bien sûr, bonjour à vous qui nous écoutez en podcast à une autre heure du jour ou de la nuit. Nous sommes le mardi 16 avril 2024. Au programme de l'émission, eh bien les bourses qui sont dans le rouge ce matin, le CAC 40 qui a mis fin à une série de 4 séances qui enchaîne 5 séances de repli, mais en toile de fond, les doutes des investisseurs sur la trajectoire des taux de la Fed, eh bien, demeure important. On va décrypter ça, on va en parler dans toute l'émission. Le pétrole repart à la hausse aussi, on en parle dans quelques minutes. La saison des impôts est ouverte. Le point sur les nouveautés et les pièges à éviter dans votre déclaration avec Jean-Baptiste de Pascal d'Interinvest dans quelques minutes. À 10h30, comme tous les jours, votre dose d'économie avec Nicolas Dose. Côté bourse, Antoine Larigaudry depuis Euronext qui sera avec nous sur une grosse partie de la première demi-heure. Et puis, nos deux traders poursuivent la séance du jour depuis Euronext. Ce sera le match des traders. Aujourd'hui, on vous coach. L'argent n'a pas d'odeur, mais l'explication de cette expression est plus surprenante qu'il n'y paraît. Pour comprendre ses origines, c'est Jean-Marc Daniel qui nous emmènera au règne de l'empereur romain Vespasien. Le question-réponse du jour portera sur la Chine et plus précisément sur la japonisation de la Chine. Est-ce que la Chine devrait se retrouver dans la même situation que le Japon des années 90 et qu'est-ce que ça signifierait pour nous, investisseurs particuliers ? Décryptage vers 11h30. Et puis aujourd'hui, on investit dans les voitures, deux chevaux, mini, mais aussi Porsche. On va parler course auto et comment des modèles populaires peuvent devenir des pièces d'exception et des objets d'investissement. On sera avec la maison d'enchères Agut. Et puis au programme, il y a vous. Vous réagissez, l'adresse est direct@bfmbusiness.fr. Mais c'est aussi sur LinkedIn, je suis connectée, je vous lis en direct et aussi en différé. Il est l'heure de partir à Euronext, rejoindre Antoine.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
Votre rendez-vous avec eToro, plateforme de trading et d'investissement. Les traders intelligents choisissent les meilleurs outils.
Antoine, cette fois pas de miracle, si je puis dire. Notre CAC 40 subit un gros coup de mou. On est dans le rouge et on est surtout sous les 8000.
Oui, absolument. Mais le miracle, il a eu lieu hier, c'est-à-dire qu'on est arrivé quand même à résister à une forte série de baisses du côté de Wall Street. On voyait les marchés européens résister à peu près correctement. Puis là, on lâche tout, hein, très concrètement. Et encore, c'est plutôt bien payé, puisqu'on était en baisse de plus d'1,5% à l'ouverture. Là, on ne perd plus qu'1,3%. Mais effectivement, on tombe sous les 8000 points. On est à 7941. On revient sur nos niveaux de la fin février. Donc, globalement, on est dans une situation quand même difficile. Le DAX à Francfort, moins 1,3% pour l'Eurostoxx 50. Là, depuis une bonne demi-heure, les niveaux sont stabilisés. On ne bouge plus, ça, c'est plutôt encourageant. Mais partout, des indicateurs de stress. On va beaucoup en parler lors de cette émission, mais effectivement, les taux d'intérêt se sont très largement tendus, alors notamment du côté américain, ce qui explique cette contre-performance remarquable de Wall Street. Le Dow Jones sort quand même de 6 séances de baisse consécutives. On a les taux à 2 ans, ceux qui sont le plus représentatifs des anticipations concernant les taux de la Fed, qui atteignent quasiment 5%. Donc, on a vraiment des signaux de stress très probants sur le marché. On est au-delà des 19 points sur l'indice VIX, l'indice de la volatilité américain. Il est au plus haut depuis Halloween, hein, pour l'anecdote. Et du côté du pétrole, ça se passe un petit peu mieux. On n'a pas de débordement des $90 pour l'instant. Le Brent est à $90.20. Les principales baisses, ce sont des valeurs industrielles liées aux grands cycles économiques. On a eu les chiffres de la croissance chinoise ce matin, qui étaient spectaculaires, qui étaient nettement au-dessus des attentes. Mais les perspectives sont vraiment pas très très bonne pour la suite. Et ça fait tomber ArcelorMittal qui tombe de 6,3% à 23,92€. Le secteur auto avec Renault moins 2,9% à 48,67€. Stellantis moins 2,72€ à 24,31€. Les rares hausses, il n'y en a qu'une sur le CAC 40. C'est Téléperformance qui gagne 0,5% à 88,64€. Puis à noter que sur le SBF 120, on s'est replacé autour de Newen qui gagne 3% à 28,84€ ou sur SES qui gagne 2% à 5,61€. Le CAC, moins 1,24€, 7945 points. Et l'euro faiblit encore à cause du différentiel de taux entre Europe et États-Unis. On teste maintenant le niveau d'1,06.
Antoine, on vous retrouve dans quelques minutes. Vous serez avec nous dans le talk. On va reparler évidemment climat de marché. On touchera également un mot de Tesla et aussi de Salesforce qui perdait hier 7% en bourse. Et puis à 11h, on parlera des taux. Parce que c'est là que tout se joue finalement. Votre histoire financière du jour, ce sera sur les taux, Antoine. À tout de suite, Antoine. Restez connectés. On va faire le point sur l'actualité patrimoine et financière qui vous concerne.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Vous avez entendu Antoine, les bourses européennes qui ont ouvert à la baisse ce mardi matin avec des statistiques économiques en Chine jugées plutôt décevantes et puis un regain de tensions géopolitiques évidemment qu'on va continuer à surveiller sur BFM Business toute la journée. Un mot de pétrole qui repartait à la hausse. Certains économistes mettent en garde contre un embrasement au Moyen-Orient et les conséquences que ça pourrait avoir sur le baril. On pourrait dire que les 1000 dollars ne sont plus un tabou, mais pour le moment, nous ne sommes qu'autour, si je puis dire, de 90 dollars pour le Brent de mer du Nord. L'or est au-dessus de 2380 points après un pic à 2443 dollars hier mardi. Et puis le Bitcoin est autour des 63500 dollars. Le halving aura lieu dans 3 jours, vous le savez. Nous en parlerons avec toute l'équipe, Amaury de Tonquédec et nos experts. Et nous serons en émission spéciale vendredi. Un mot de Tesla qui supprime 10% de ses effectifs. Le ralentissement de la demande de voitures électriques conduit Tesla à réduire son nombre d'employés au niveau mondial. Les réductions pourraient atteindre plus de 20% dans certaines divisions. Deux de ses plus hauts dirigeants ont démissionné au milieu de la plus grande vague de suppression d'emplois jamais enregistrée par ce constructeur automobile. Et plusieurs analystes se préparent à une baisse potentielle des ventes pour l'année. Nous allons en reparler avec Antoine Larrigaudry dans quelques minutes dans le talk. Et puis je vous renvoie à un article de Bloomberg en anglais. Mer plus calme et nuit plus claire. Depuis Pâques, la saison du yachting des plaisanciers en yacht commence en Méditerranée. Ça concerne l'élite financière mondiale. En face de cette navigation de plaisance, Bloomberg décrit un autre type de navigation, une navigation de fortune, des migrants qui tentent de traverser cette même Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Les derniers rapports des autorités italiennes indiquent que la Tunisie est devenue le nouveau point de départ vers l'Europe pour éviter la Libye. Une cinquantaine de personnes ont été interpellées au moment du lundi de Pâques autour d'une île qui accueille d'habitude des milliardaires dont Giorgio Armani et puis le monde de la mode. Ces migrants ont déclaré avoir payé 1000 dinars tunisiens, soit 320 dollars pour le voyage. Parmi les arrivées figuraient des personnes originaires de Gambie, de Guinée-Conakry, de Guinée-Bissau, du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie. Article à retrouver sur le site de Bloomberg. On va continuer à parler de l'actualité des marchés et puis évidemment de ce climat particulier. Nous allons passer une tête du côté de nos traders pour faire le point sur la séance en cours.
Tout pour investir, le match des traders.
Et ce matin, c'est Michel Delobel de MW Gestion qui est avec nous, ainsi que Gilles Santacreux de Boursicoté.com et ses algos. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Hier, Paris a mis fin à une série de 4 séances de repli. Ce matin, on est dans le rouge, on est en dessous des 8000 points. Gros coup de mou, là cette fois, il n'y aura pas de miracle peut-être, Michel, pour démarrer. Qu'est-ce qu'on fait dans une journée comme celle-ci sur les marchés ?
Alors c'est intéressant, alors pas de miracle, il faut peut-être attendre ce soir quand même, parce qu'on a vu que les marchés depuis quelques temps nous surprenaient un petit peu par rapport à leur vigueur, mais c'est vrai qu'il y a eu un affaiblissement qui a commencé vendredi en 8 avec un premier gap baissier. Là ce matin on ouvre un deuxième gap assez important d'une centaine de points. Alors pour l'instant on est en train d'essayer d'aller grignoter un petit peu, on est en train de revenir vers la zone des 7980 en gros, qui avait soutenu le marché en fin de semaine dernière, mais c'est vrai qu'on a quand même un signal baissier qui vient confirmer une petite faiblesse de la semaine dernière. Là, pour moi, le principal objectif dans les prochains jours, on va dire, ça serait la zone des 7820 qui correspondait à un autre gap ouvert le 22 février. Voilà, pour l'instant, ce n'est qu'une consolidation. Il ne faut quand même pas oublier que depuis la fin du mois d'octobre, on avait quand même connu une forte hausse du marché avec juste une petite pause en tout début d'année. Donc, pour l'instant, pas de panique. L'environnement est quand même assez tendu entre l'inflation, entre le regain de tension au Moyen-Orient. Donc, voilà, c'est pour moi, c'est pour l'instant une saine consolidation après avoir comment les choses évoluent dans les prochains jours. La difficulté quand on a un gap comme ça en tout début de séance, c'est de savoir est-ce que le marché va accélérer à la baisse et vraiment partir dans des amplitudes de repli beaucoup plus importantes. Pour l'instant, voilà, on voit une vraie stabilisation depuis le tout début de séance. On hésite entre continuer à accélérer le mouvement baissier et puis essayer d'aller tester les supports de fin de semaine dernière qui sont devenus des résistances. Mmh. Voilà, attendons de voir la mi-séance et sans doute l'ouverture de Wall Street qui dictera la fin de séance en Europe.
Et oui, surtout qu'on est dans la saison de publication des résultats du premier trimestre. Hein, donc ça va aussi continuer à apporter des informations. Gilles, qu'est-ce que vous surveillez aujourd'hui? Comment réagissez-vous à ce que vient de nous dire Michel?
Alors, il y a beaucoup de choses sur des niveaux où on est à peu près raccord. On surveillait la zone des 8024. C'était un premier retracement de Fibonacci de l'ensemble de la hausse qui avait été marquée précédemment. On vient donc de casser cette zone. On avait un niveau de support à 7975. Ce niveau de support, s'il était cassé à la baisse, eh bien, ça donnait un signal baissier. Donc, on l'a cassé sur gap. Donc, signal baissier confirmé et relativement puissant. Et donc là, si on s'en tient au retracement de Fibonacci, on a un deuxième objectif à 7880 points qui n'est plus très très loin, et effectivement le gap du 22 février. On est dans une configuration technique qui, je dirais, qui est donc baissière, toujours phase de consolidation. Ce n'est que sous la zone des 7880 points que l'on commencerait à avoir des signaux d'un potentiel retournement. Mais pour l'instant, du point de vue moyen terme en tout cas, on reste dans une phase de consolidation, qui ne remet rien en cause. D'un point de vue macro, ce qui se passe, c'est assez intéressant. On a un petit peu un effet ciseau puisque ces tensions géopolitiques pourraient faire remonter les cours de l'énergie, du pétrole notamment, et cela pourrait faire repartir l'inflation à la hausse. Quand on sait que la hausse du mouvement au niveau des indices correspond au fait que l'on avait un espoir de baisse des taux, cela vient contrarier justement cet espoir. Et entre les tensions géopolitiques et le fait que les taux pourraient ne pas baisser aussitôt que prévu, si j'ose dire, eh bien, on a un double effet qui justement justifie cette baisse. Au niveau de mes algos, on reste sur une dynamique qui pourrait continuer à la baisse et notamment s'accélérer en deuxième partie de cette semaine, donc à partir de demain ou jeudi. Et donc clairement pour le moment, en plus on a beaucoup de volumes aujourd'hui, des volumes supérieurs à la moyenne, donc après l'ouverture de ce gap et donc un rebond qui ne parvient pas pour l'instant à combler ce trou de cotation. Donc clairement on va observer ce qui se passe. Si on revenait au-dessus des 7915 points, 7975 points pardon, on pourrait commencer à avoir un affaiblissement de ce mouvement baissier, mais là pour l'instant effectivement il faut regarder vers le bas effectivement cette zone des 7880 points pour éventuellement détecter une phase d'accélération.
Si je peux vous faire un peu de vocabulaire, quel est le mot pour résumer une journée qui commence comme ça, un peu qui commence vite et vers le bas, si je peux dire. Michel, est-ce qu'il y a un état d'esprit qui résume, un mot qui résume l'état d'esprit dans lequel il faut être aujourd'hui?
Un mot en particulier, j'en ai pas qui me viennent comme ça. Enfin, il faut, comme dit Gilles, pour l'instant, on a déclenché un signal de baisse, donc il faut plutôt regarder vers le bas et profiter là peut-être des tentatives de rebond vers les supports de la semaine dernière pour prendre des positions baissières ou couvrir en tout cas les positions haussières quand on en a. Voilà, il faut pas s'emballer non plus parce que les gaps comme ça qui créent des trous de cotation, comme disait Gilles, il faut s'en méfier parce que est-ce que tout le mouvement de crainte s'est fait à l'ouverture ou est-ce qu'on va enchaîner et poursuivre la baisse en fin de séance? C'est difficile. On a vu des fois des gaps qui étaient comblés dans la journée et puis un contre-pied que subissaient les investisseurs. Je suis pas sûr que le climat actuel et la forte hausse qu'on a eue depuis la fin du mois d'octobre justifie qu'on ait un contre-pied et puis l'environnement macro et géopolitique va dans le sens d'une baisse. Mais c'est vrai que les marchés ont été tellement solides ces dernières semaines, ces derniers mois, par rapport aux mauvaises nouvelles qui ont pu s'accumuler, qu'on n'est pas à l'abri, malgré tout, d'un retournement à Wall Street en fin de journée et que le CAC repasse la zone des 8000 et 8028 points qui ont été cassés ce matin.
Gilles, pour finir, est-ce qu'on est toujours dans un scénario boucle d'or, là, où tout serait un petit peu tiédasse?
Ah, ben là, on a une remise en cause. parler d'un mot, c'est la crainte hein, qui domine aujourd'hui. Ce qu'il faut en fait quand on a un mouvement baissier comme ça, c'est identifier justement les causes de cette baisse. Là, j'ai commencé à l'aborder, donc c'est cet impact justement des taux et des prix des matières premières par rapport à l'évolution des taux et de l'inflation. Donc ce qu'il faut, c'est surveiller un petit peu les éléments qui pourraient justement alimenter cette baisse pour voir si elle peut continuer ou pas. Donc on a les éléments macro, donc aujourd'hui il faut surveiller le pétrole, il faut surveiller les taux obligataires, il faut aussi surveiller le dollar index, puisqu'en fait un dollar index qui monte peut justement avoir un impact aussi sur tout ça. Et puis ensuite on a les éléments techniques, donc Michel l'a très bien dit, un gap, je veux dire, n'est pas forcément comblé tout de suite, le fait qu'il en fin de journée ne soit pas comblé, ce sera un signal de force baissière, donc il faudra le prendre en compte. Et ensuite on a les niveaux, moi j'ai d'autres indicateurs qui me montrent que pour l'instant il n'y a pas d'espoir d'un retour à la hausse, comme je vous l'ai dit, c'est 7975, tant qu'on est en dessous il faut regarder à la baisse. Et donc entre le macro et le technique, on a vraiment des éléments qui nous permettent d'observer ce qui se passe et d'essayer d'anticiper justement pour se couvrir au mieux par rapport justement à cette baisse de marché.
Merci messieurs pour ce décryptage de cette séance qui commence plutôt dans le rouge, voilà, signal baissier. On vous retrouve un peu plus tard dans la semaine, vous le voyez, pour ceux qui nous suivent en image, l'ensemble de l'Europe est dans le rouge aussi ce matin. Les bourses européennes qui ont ouvert en baisse largement ce mardi matin. À suivre, on va discuter des actus qui vous concernent en tant qu'investisseur particulier. On va revenir sur Tesla, on va revenir sur Salesforce aussi qui finissait bien dans le rouge hier aux États-Unis. Et puis on va parler impôts. Bah oui, vous savez, c'est tout pour investir. On parle de tout ce qui concerne vos finances. Merci à nos deux traders, merci à Michel Delobel de MW Gestion et merci à Gilles Santacreux de Boursicoté.com. À suivre le débat.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
Et ce matin, on débat de moult sujets. Nous sommes d'une part avec Jean-Baptiste de Pascal, le directeur général délégué d'Interinvest. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Lorraine.
Vous étiez déjà avec nous la semaine dernière, mais on vous a fait revenir parce que on avait besoin de vous pour continuer à comprendre quelque chose à notre déclaration d'impôt. On va être très dans l'actu, on va zoomer avec vous sur les nouveautés, mais surtout les pièges à éviter en ce début de période fiscale, de déclaration fiscale 2024. Antoine Larigaudry, depuis Euronext, est encore avec nous. Rebonjour cher Antoine.
Oui Lorraine.
Et puis Amaury Tonquédec va nous rejoindre dans quelques minutes.
Bonjour.
Parce qu'on va se poser la question de l'usage refuge du Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin joue son rôle de valeur refuge dans le contexte géopolitique extrêmement compliqué que nous traversons ? Plus que l'or, moins que l'or. On verra ça tout à l'heure. D'abord, Antoine, peut-être un mot côté valeur. On a parlé de Tesla qui licencie, qui supprime 10% de ses effectifs. Certains pensent que ça pourrait monter à 20% ses suppressions d'emplois. Expliquez-nous pourquoi il faut surveiller cela de très près.
Alors déjà parce que quand une entreprise aussi novatrice que Tesla est rattrapée par des fondamentaux bêtes et méchants de l'industrie automobile, bah oui, forcément c'est un monde qui change et c'est pas la première fois qu'on le dit à cette antenne. Donc oui, quand il y a moins de demandes, quand il y a des interrogations stratégiques sur le futur, bah oui, on dégraisse et c'est ce qui arrive à Tesla. Et Tesla qui licencie, de mémoire, ça fait très très bizarre. J'ai bien l'impression qu'il s'agit quand même d'une première, et puis surtout à ces niveaux-là, c'est pas des ajustements. Là, c'est vraiment un dégraissage, donc 10 ou 20%, vous en avez parlé. Mais il y a une autre annonce qui a quand même refroidi les marchés, c'est le départ d'un personnage clé chez Tesla. Il s'agit du responsable de tout ce qui est propulsion électrique. C'est quand même au cœur du modèle économique de Tesla. Il a décidé de partir et, manque de bol, ce haut responsable est aussi maître d'œuvre de la fameuse Tesla qu'on attend toujours. Vous savez, la petite Tesla, la Model 2, alors on a commencé à l'appeler la Model 2, mais enfin la Tesla plus abordable, la Tesla compacte, qu'on va pouvoir vendre peut-être un petit peu mieux que les Tesla 3, alors qui sont vendus comme des petits pains, mais avec un taux de pénétration bien supérieur, parce que là, il s'agirait de créer une voiture compacte citadine, un petit peu à la dimension d'une Golf électrique, pour vous donner une idée. Donc on a un départ stratégique, on a des annonces de licenciement parce que voilà, point de vue perspective, ça ne va pas. Point de vue perspective de vente, on en parle beaucoup, on a certaines zones géographiques très difficiles, notamment la Chine. On a des marges qui sont en train de baisser à vitesse grand V parce qu'il faut bien écouler les Tesla qui commencent à vieillir. et on est prêt à faire des efforts sur la marge pour pouvoir les écouler plus rapidement. Donc ça, c'est de la marge en moins, de la rentabilité en moins. Et effectivement, Tesla, la scorecard, elle ne s'améliore pas. Depuis le début de l'année, le titre perd 35%. Alors, il s'aggrave pas plus que ça, on va dire. Mais encore une fois, on a l'impression que Tesla est vraiment sorti du scope des titres en vue et semble, encore une fois, rattrapé par les problématiques structurelles, industrielles des grands constructeurs automobiles généralistes.
Alors Antoine, haute valeur sur laquelle il faut revenir ce matin, c'est Salesforce qui a perdu plus de 7% parce que rumeur à Wall Street que Salesforce pourrait faire une offre sur Informatica pour 11 milliards et Salesforce n'est pas très connu pour réussir ses opérations d'acquisition, si je résume très mal et très vite. Dites-nous en plus.
Oui, mais c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai que Salesforce, on se dit, Salesforce, ils se suffisent à eux-mêmes. Salesforce, c'est le... Alors, c'est vrai que c'est un secteur qui passe un peu sous le scope du grand public, mais ça pourrait être des Magnificent Seven. Il faudrait pour ça qu'il ait un peu plus de capitalisation boursière, un peu plus de muscles, un peu plus d'impact auprès du grand public et auprès des investisseurs. Mais c'est un leader d'une norme qu'on retrouve partout dans le monde, qui est le CRM, qui est la gestion des données. Et là, on le voit se lancer éventuellement à l'assaut d'une société, alors qui représente une bouchée de pain par rapport à sa capitalisation boursière. Salesforce, c'est 250 milliards de dollars de mémoire. Informatica, c'est aux alentours des 11 milliards. Mais voilà, on se dit, Salesforce, ils suffisent un peu à eux-mêmes, c'est une norme en tant que telle. Qu'est-ce qu'ils vont aller risquer une opération sur un groupe, alors certes, qui est spécialiste de la gestion des données, la gestion du cloud, donc qui lui donnerait une brique supplémentaire pour s'imposer face à des concurrents éventuels sur certaines activités comme Amazon, par exemple. Mais voilà, on se dit, qu'est-ce qu'ils vont se lancer là-dedans alors qu'on a un contexte monétaire extrêmement incertain, que la Fed est sur le point d'un petit peu chambouler le monde en disant, finalement, les baisses de taux, c'est pas pour maintenant, on va attendre un petit peu. Donc tout ça est nécessairement fatal aux valeurs de croissance en ce moment, et ça explique la piètre performance du Nasdaq notamment. Donc on se dit, qu'est-ce qu'ils vont lancer cette opération en plein milieu de cette phase boursière compliquée, de ces phases géopolitiques aussi très compliquées à gérer, qui rendent nécessairement le financement de ces opérations beaucoup plus compliqué. Donc voilà, interrogation autour de Salesforce. Maintenant, la scorecard de Salesforce, elle est pas si dramatique que ça si on regarde bien du côté des performances. Oui, c'est vrai qu'on perd 9,5% sur un mois, mais enfin on gagne quand même un petit peu plus de 35% sur un an, ce qui reste quand même une excellente performance. C'est pas un Magnificent Seven, mais il pourrait être prétendant au titre.
Il pourrait être dans le top 10. Si un jour il passe à 10, c'est Magnificent. Un mot de Bitcoin avec vous Antoine et avec vous Amaury. Hier, on se demandait en préparant la séance d'aujourd'hui si le Bitcoin servait de valeur refuge, comme on lui prête ce rôle depuis quelques mois, et on voulait avoir votre regard Amaury là-dessus. Est-ce que le Bitcoin fait le job de valeur refuge ?
Alors, ça dépend quel horizon de temps on prend. C'est sûr qu'avec ce qui s'est passé ce week-end, on a eu sur le Bitcoin quasiment 10% de baisse dans la nuit de samedi à dimanche avec les événements géopolitiques malheureux qu'il y a eu. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, ça fait partie des seuls actifs qui étaient cotés en temps réel. C'est-à-dire que le week-end, les marchés traditionnels ne cotent pas. Le Bitcoin était en cotation réelle, donc c'est un peu le seul qu'on a vu réagir en temps réel. Maintenant, on a perdu 10%, qu'il a assez vite regagné. Donc certes, le marché était dans le rouge. Maintenant, quand on regarde sur un an, à l'instant où on se parle, on est quand même à plus 110%. Donc quand on dézoome, on voit que ça tient quand même fort. Même si ça peut faire un peu peur à court terme que c'est volatile, le Bitcoin tient. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder la réaction du Bitcoin par rapport aux autres cryptos. On voit que ce qui est les altcoins, donc le reste du marché, pour la plupart... elles ont perdu 20-30%. Donc la dominance du Bitcoin ce week-end n'a jamais été aussi forte depuis 3 ans. On était à plus 53%. Ça veut dire que la capitalisation totale du marché crypto était représentée à 53% par celle du Bitcoin. Donc c'est intéressant de voir que le Bitcoin est quand même malgré tout résilient. Et puis quand on regarde directement le Bitcoin sans regarder ce qui se passe autour, on est, vous l'avez dit Lorraine tout à l'heure, à 3-4 jours du halving. Et historiquement, à chaque fois, le Bitcoin est quand même très volatile dans cette période-là. Et c'est une période qui... et de correction. Donc voilà, on a un moins 10% qu'on est en train de récupérer. On oscille en gros entre les 60 000 et les 73 000 dollars, le dernier record du Bitcoin. Donc on est dans une sorte de range. Donc oui, on est dans le rouge. Maintenant, je trouve que là, sur le long terme, ça tient quand même bien. Et puis il y a aussi des histoires de taux. Voilà, Antoine en parlera tout à l'heure. Je trouve que pour l'instant, le Bitcoin est assez résilient.
Les taux, effectivement, Antoine, vous nous en parlerez dans une grosse demi-heure. On dédiera votre histoire financière du jour. Et comme on passe vraiment d'un sujet à l'autre depuis le début de cette émission, nous allons sans transition parler de nos impôts avec vous, Jean-Baptiste de Pascal, de l'équipe Interinvest, parce qu'il y a de la nouveauté du côté fiscalité. Il y a donc quelques pièges à éviter. Vous nous faites un petit top 3, finalement, ce matin, des pièges auxquels nous devons prêter attention pour ceux et celles qui sont déjà connectés et qui sont au boulot pour déclarer leurs revenus, entre autres, dans leur déclaration, cher Jean-Baptiste. À quoi on doit faire particulièrement attention, là ?
Le top 1 des pièges et des nouveautés, c'est aussi les revenus des plateformes. C'est un peu le bazar, on a du mal à s'y retrouver et c'est le piège assuré. Parce que comment on déclare les revenus de ces plateformes ? Je ne sais pas si vous êtes adepte de Vinted, mais où est-ce qu'on déclare ces revenus sur Vinted ? Est-ce qu'on les déclare ? Combien il faut d'opérations ? C'est un vrai sujet. Alors la réponse, c'est simple. Tout ce que je revends d'occasion, si j'ai fait moins de 2000 euros ou moins de 30 reventes, je n'ai, quoi qu'il arrive, rien à déclarer. Et en l'occurrence, tout ce qui est d'occasion que j'ai revendu, qui m'appartenait, que j'avais déjà acheté, ce n'est pas fiscalisé. Sauf objet de luxe ou un peu objet d'art que je vais revendre plus de 5000 euros avec potentiellement de plus. Là, c'est exonéré. Donc, rassurons-nous pour nos dressings, on n'a pas à déclarer ce qu'on a revendu sur les plateformes.
Ok, en dessous de 2000 euros, on ne fait rien. Quid des comptes à l'étranger ? À Moriella, on parle de Bitcoin. Souvent, les gens opèrent leurs finances Bitcoin sur des plateformes étrangères. À quoi faut-il faire attention ?
Alors déjà, c'est... Comment savoir qu'on a un compte à l'étranger ? Parce qu'effectivement, on a ces plateformes qu'on ouvre ici en France avec des banques ou des plateformes qui opèrent ici. Et comment savoir si le compte est à l'étranger ? Alors, c'est tout simple. Il suffit de regarder sur le RIB les premières lettres. Si vous avez FR, c'est bon, c'est un compte français. Pour les autres lettres, c'est que c'est un compte à l'étranger. Donc, un DE pour N26, c'est de l'étranger. Un LT, c'est de l'étranger. Donc, il suffit de regarder sur le RIB les deux premières lettres et on sait si FR, c'est en France, tout le reste, c'est à l'étranger. Et si c'est à l'étranger, effectivement, quel que soit le montant, et même si on a zéro sur le compte, il faut le déclarer en fin de sa déclaration, il faut le mentionner et mentionner combien on a sur ce compte pour que l'administration puisse le suivre. Pour certains, c'est pré-rempli d'une année sur l'autre, et pour d'autres, il faut l'ajouter, donc il faut faire cet effort d'aller rajouter soi-même les différents comptes à l'étranger. C'est pas que le compte en Suisse, c'est aussi les comptes qu'on peut avoir sur des plateformes en ligne.
Et oui, notamment en Allemagne, on ne le sait pas forcément. Il y a des petites cases à ne pas oublier, vous nous rafraîchissez la mémoire, peut-être par exemple pour les parents qui ont des enfants au collège ou au lycée, ou même étudiants.
Exactement, il y a quand même trois réductions d'impôts un peu offertes ou gratuites. C'est si on est à des enfants qui sont collégiens, lycéens ou en études supérieures qui donnent droit à des réductions d'impôts qui peuvent aller jusqu'à un peu plus de 150 euros. C'est une case à cocher, il ne faut pas l'oublier. Elle est assez simple, mais il faut la faire. Et la même chose pour les revenus des étudiants ou des apprentis. C'est un abattement qu'on doit faire systématiquement soi-même et non pas automatiquement sur les revenus. Donc ne pas l'oublier, parce que si vous ne faites pas cet abattement, eh bien vous serez fiscalisé sur la totalité des revenus de votre enfant étudiant ou enfant apprenti qui est à votre charge.
Donc, et attention, parce que les apprentis gagnent leur vie.
Exactement, et fiscalisé dans votre tranche haute d'imposition.
Bon, on finit sur un mot, emploi à la personne, service à la personne, parce que il y a à savoir, pour la première année d'emploi salarié à domicile, il y a une petite case qui permet de bénéficier d'un abattement.
Exactement, pour la première année où on déclare un salarié à domicile, on peut bénéficier d'un plafond majoré. On n'est pas à 12 000 euros de dépenses, mais à 15 000 euros de dépenses qui peuvent générer du crédit d'impôt, donc 50% de crédit d'impôt. Et quand on le cumule avec des enfants à charge, et on peut en cumuler jusqu'à deux, ça peut vous donner jusqu'à 18 000 euros déductibles. Donc ne pas oublier, la première année où on déclare un salarié à domicile, et ce qu'on connaît le plus, c'est en général la nounou. Une nounou qu'on se déclare à domicile, on peut aller jusqu'à 18 000 euros de dépenses déductibles pour la première année.
Voilà. Tesla, Bitcoin, impôts, on s'occupe de vos finances personnelles à 360 degrés dans Tout pour investir. Merci beaucoup Jean-Baptiste de Pascal de l'équipe Interinvest. Merci à Maury qu'on retrouve tout à l'heure en bout d'émission. Et puis merci Antoine qu'on retrouve dans une demi-heure pour le point marché et puis l'histoire financière du jour. Vous restez avec nous, rapide publicité et après Nicolas Dose vient vous donner votre dose d'économie. À tout de suite.
Tout pour investir, dose d'économie.
Comme tous les jours, notre docteur de l'économie, Nicolas Dose, prend les manettes de Tout pour investir. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Nous allons parler de la course aux économies. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé avec vous.
Oh bah c'est le début, c'est la suite, c'est pas fini.
Elle s'accélère à Bercy, cette course, pour trouver les nouveaux milliards nécessaires. On apprend que l'apprentissage va être touché. Dites-nous, Nicolas, ce que prépare le gouvernement.
Eh bien, tout simplement, de couper dans les aides publiques que l'État verse aux entreprises qui font appel à un apprenti. Donc, on va être très précis, parce qu'on n'est pas en train de mettre fin au dispositif, non, mais de l'amputer. Donc, un décret se prépare pour le 1er mai, mettre fin à l'aide qui peut atteindre jusqu'à 6 000 euros lorsqu'une entreprise embauche un alternant de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation. C'est important de bien préciser que ça concerne la prime accordée pour l'embauche d'un alternant de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation, c'est-à-dire en fait ceux qui sont à la fois en formation dans un institut de formation et à la fois en formation pratique dans une entreprise. Cette prime à l'apprentissage est totalement maintenue à 6 000 euros pour les apprentis de formation initial. Je précise parce qu'on a l'impression qu'on met fin au dispositif. Ça n'est pas le cas. Donc, les contrats de professionnalisation, si on prend les chiffres de la DARES du mois de janvier 2024, du début de l'année, on en avait 91 000.
Oui.
C'est pas rien, 91 000.
Non.
Mais sur pratiquement un million d'apprentis, c'est quand même, ça reste minoritaire. On était à peu près à 116 000 contrats de ce type-là en 2023, d'après les mêmes chiffres. Et donc, je rappelle que c'est le premier coup de canif important que l'on donne dans ce dispositif qui a vu le jour en juillet 2020. On sortait du confinement et c'est là où on décide d'une vaste politique d'aide publique à l'apprentissage qu'on n'avait jamais menée, qui a produit des résultats absolument époustouflants, avec des primes qui à l'époque pouvaient aller jusqu'à 8 000 euros, qui ont été réduites à 6 000 euros et qui donc là sera supprimée, la prime sera supprimée pour les contrats de professionnalisation. C'est l'annonce du jour.
Bon, aide généreuse, hein, qui ont quand même encouragé beaucoup d'entreprises à se tourner vers l'apprentissage. Néanmoins, est-ce que vous trouvez que ces coupes dans ces aides à la formation sont justifiées?
Ma réponse est non. Franchement, ça fait des années que la France se disait comment faire décoller l'apprentissage. On a lancé une politique dédiée à l'apprentissage, on y est parvenu. Ça fait des années qu'on se dit qu'il faut investir vraiment dans la formation des jeunes. C'est ce qu'on fait. Mmh. Et puis voilà qu'on est rattrapé par la patrouille, que le déficit se creuse, qu'il faut montrer un peu patte blanche, que dans une urgence absolue, on va gratter des milliards dans tous les sens avec une absence de réflexion totale. Moralité, on va demander au ministère du Travail de supprimer 1,1 milliard d'euros de crédit. Je sais pas, on a le troisième taux de chômage le plus important de la zone euro. On a besoin de politique de l'emploi, on a besoin de formation professionnelle, on a besoin d'investissement dans la jeunesse et on tape dedans. Je considère qu'on est vraiment dans un contresens économique et même d'ailleurs un contresens politique. Je ne comprends pas qu'on arbitre sur ces terrains-là, alors qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on pourrait aller chercher des économies.
Oui, et vous l'avez dit, cette politique de soutien ou de développement de l'apprentissage, elle a plutôt marché. Mmh. Alors pourquoi, dans ce cas-là, Bercy s'attaque à un truc qui a marché?
Deux raisons. D'abord, ils sont morts de faim, donc ils courent après le moindre euro d'économie dans un état d'urgence absolue. Là, c'est branle-bas de combat à Bercy. Mmh. Les notes s'empilent sur le bureau de Thomas Cazenave, des notes dans des feuillets bleus, une par une, ils vont commencer à regarder où est-ce qu'on peut aller chercher des économies. C'est un travail de fourmi. Mais là, on voit quand même, on tape dans quelque chose qui fonctionne et qui pendant des années n'a pas fonctionné. Il y a un moment, les choses m'échappent. Ouais. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas en France qui pourraient mériter d'être regardées à la loupe. Alors après, je vois bien la logique de Bercy. C'est vrai que ça a tellement bien marché, finalement, ce dispositif de l'apprentissage, qu'il a fini par atteindre une facture astronomique.
Ouais.
On avoisine à peu près les 20 milliards d'euros à l'année. C'est un montant absolument énorme. Et on s'est rendu compte qu'on avait visé très large, alors on avait créé des effets d'aubaine un peu dans tous les sens. Et là où je m'inquiète, c'est que c'est une politique qui marche, qui coûte cher, c'est vrai, qu'on essaye d'y trouver des économies comme ce qui va être fait là, pourquoi pas, mais je crains que ce ne soit qu'un début. Objectivement, l'annonce du décret là, qui va concerner à peu près, on va dire, 100 000 contrats d'apprentissage, de professionnalisation, il n'est pas en train de tuer le dispositif.
Oui.
Mais malheureusement, je redoute que ce soit un début et que d'autres mesures suivent. Parce que c'est facile d'aller récupérer des crédits sur l'apprentissage. Et notamment, il y a cette idée qui circule qu'il faudrait concentrer l'ensemble des crédits de l'apprentissage aux publics qui sont les plus concernés, c'est-à-dire les bacs, bac plus 1, bac plus 2, et peut-être considérer que bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5 n'y ont pas accès. À ce moment-là, là, ce sera vraiment très restrictif. Donc voilà, j'ai un peu de mal à suivre quand même la logique de Bercy, même si je vois très 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 bien la course au milliard qui est effrénée actuellement.
Bon, en tout cas, c'est un des dossiers sur la table, vous l'avez dit, Thomas Cazenave. On verra si effectivement ça sera mis en place, cette volonté de
raboter. Là, le décret, il est à, le décret, visiblement, c'est parti. Hein.
Bon, ce rabotage qu'on analysera. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Dose, dont la chronique est à retrouver en podcast et en replay d'ici quelques secondes sur notre site et l'application BFM Business. Et vous le savez, comme l'ensemble des chroniques de Nicolas, sur YouTube, pour que vous aussi vous participiez à la discussion, à la réflexion, donniez votre avis sur cette course aux économies et est-ce que c'est une bonne idée de s'attaquer à l'apprentissage, on le rappelle, spécifiquement aux embauches, aux contrats de professionnalisation des plus de 30 ans. À suivre, on va s'intéresser à nos petites et moyennes valeurs avec Eric Lewin.
Tout pour investir en portefeuille.
En portefeuille avec vous, Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Bonjour Eric.
Bonjour ma chère Lorraine.
Nous allons faire le point, comme tous les mardis, avec vous sur les indices mid et small. Comment se porte notre CAC ?
Bah écoutez, le CAC 40 est flat sur la semaine, il gagne 7% depuis le début d'année. Par contre, small et mid, c'est un peu la soupe à la grimace, moins 1%. Le CAC small ne gagne que 0,2% depuis le début d'année, le CAC mid 5,2%. Donc l'écart entre le CAC mid et le CAC 40, c'est que de 1,5%. Donc ça devrait s'inverser, mais c'est vrai qu'on s'ennuie un petit peu, même s'il y a beaucoup de résultats d'entreprise.
Beaucoup de résultats d'entreprise. Vous allez surveiller quoi en particulier cette semaine ?
Alors, ce que je vais surveiller, moi, je vais surveiller surtout les big caps cette semaine. Je vais surtout surveiller du côté de LVMH et de L'Oréal. Pourquoi ? Vous avez vu que sur la Chine, on a un PIB qui est sorti ce matin, qui est ressorti un petit peu meilleur que prévu, mais on sent que sur le mois de mars, ça patine sur la production industrielle et sur les ventes de détail. Et donc, sur LVMH et L'Oréal, ce qui est intéressant, ce sont deux titres qui ont perdu 8% en l'espace d'un mois, tout simplement parce qu'on s'inquiète de la Chine. Donc, c'est vraiment les deux résultats que je surveillerai cette semaine. Il y en aura d'autres, il y aura de l'Edenred, il y aura également de l'Exilor Luxottica.
La Chine, nous en reparlerons dans 50 minutes, hein, les investisseurs qui auraient pu être assurés par cette publication de PIB du premier trimestre, mais qui ne le sont pas tout à fait. Et puis LVMH, vous l'avez précisé Eric, qui publiera ce soir post-clôture, hein, ce soir pour ceux qui nous écoutent en podcast, nous sommes mardi 16 avril. On s'arrête sur deux valeurs avec vous. D'abord, on part dans les solutions de paiement avec IP. Vous retenez cette valeur aujourd'hui, pourquoi ?
iPay, écoutez, une très belle publication. Donc on est dans le monde des fintechs, solutions de paiement, plus de 4000 clients. Résultat annuel, donc le chiffre d'affaires, on le connaissait, plus 11% à 65 millions d'euros. On a, ce qui est intéressant, une marge d'EBITDA de 15%, une marge opérationnelle courante de 7,4%. En 2022, ils avaient perdu 7,8 millions. En 2023, ils gagnent 2,2 millions. Ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'on a deux actionnaires, BG Invest et Eximium, qui ont 29% du capital. Donc, à mon avis, à un moment ou à un autre, il pourrait y avoir opération sur le capital. La seule petite problématique dans ce dossier, c'est une dette financière de 24 millions d'euros, ce qui fait un gearing, c'est-à-dire un ratio endettement net sur fonds propres de 100%, puisque les capitaux propres sont de 24 millions d'euros. Mais ce dossier n'est pas très cher, parce que je ne vais pas rentrer dans trop de ratios ésotériques. Quand on regarde la valeur d'entreprise rapportée à l'EBITDA, on est à 6, ce qui n'est pas très cher. Donc, il y a deux impacts sur ce dossier. Un impact actionnariat et un impact value avec un dossier de recovery qui n'est pas très cher.
IP, H-I-P-A-Y pour ceux qui nous écoutent à la radio ou en podcast. Deuxième valeur que vous retenez ce matin, c'est Vogo, V-O-G-O, qui annonce une augmentation de capital de 5 millions d'euros. Vous retenez cette valeur, pourquoi Eric ?
Alors d'abord, Vogo, un petit mot, c'est une Sportech créée en 2013, spécialisée des solutions audio et vidéo dédiées bien évidemment au sport. Vous avez par exemple des solutions vidéo pour les arbitres, assistance à l'arbitre, et ils ont une activité intéressante, ce qui est l'assistance pour la protection, pour les commotions cérébrales. Vous savez qu'il y a de plus en plus de sportifs qui sont victimes de commotions cérébrales, et donc là, avec leur solution de vidéo, un médecin peut voir exactement ce qui se passe en termes de problématiques de commotions cérébrales. Ils ont un nouveau modèle d'affaires qui s'appelle TAS, qui est basé sur des contrats locatifs de longue durée, c'est-à-dire plus de récurrence. Alors, 2023, il y a une baisse du chiffre d'affaires de 20% à 9,6 millions, mais à cause du nouveau modèle, on a eu un EBITDA qui a été négatif à hauteur de 557 000 euros, sauf que il a été négatif au premier semestre, mais positif au deuxième semestre, à hauteur de 310 000 euros. Alors la levée de fonds, 5 millions d'euros à 4,04 €, ça fait 4 actions anciennes pour une nouvelle. Elle est sécurisée à hauteur de 75%. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les actionnaires qui souscrivent, il y a deux footballeurs. Je ne sais pas si vous êtes spécialisé sur le football, mais comme vous avez une grande culture, Marcène Lorraine, je suis sûr que oui, il y a Raphaël Varane et il y a Aurélien Tchouaméni qui ont investi notamment dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des sportifs qui sont au capital. Alors c'est pas pour ça que ça va être un succès, mais ça veut dire quand même que les solutions de Vogo sont des solutions qui ont de la valeur. L'idée de cette augmentation de capital, c'est d'accélérer la croissance à l'international et financer les nouveaux développements. Alors l'action, elle a perdu 9% en une semaine, lié bien évidemment à cette augmentation de capital, parce que quand il y a une augmentation de capital, on a tendance à vendre la valeur. Moi, pour moi, je suis pas du tout actionnaire, donc je suis totalement neutre dans ce dossier, mais je serais plutôt partisan, pour ceux qui sont actionnaires, de participer à cette augmentation de capital. À noter que ABO, qui était entré au capital, vous savez, ABO, c'est une autre boîte cotée dans les équipementiers sportifs, qui était rentré au capital à 5,75 €, c'est-à-dire que bien plus haut que le cours actuel, souscrit également à cette augmentation de capital. Et ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui aiment le sport, et ben Vogo, c'est vraiment la belle petite sportèque, assistance vidéo, assistance, je le dirais, sur les commotions cérébrales. Donc on peut aller sur ce dossier, je précise, pour ceux bien évidemment qui sont actionnaires. Pour les autres, on attendra que l'opération ait lieu pour s'intéresser à nouveau au dossier.
Voilà, avec un prix unitaire de 4,4 €, vous nous dites une petite décote faciale de 15% par rapport au prix. Raphaël Varane et Aurélien Tchouaméni, bah finalement c'est des footballeurs. Bon, Raphaël Varane, il est retraité. Aurélien Tchouaméni, il est toujours en activité. Quelque part, les biotech ont leurs experts scientifiques, et bien les sportech ont leurs sportifs en activité ou retraités. Merci beaucoup, cher Eric Lewin, pour cette revue d'actualité sur nos petites et moyennes valeurs. Est-ce qu'on doit regarder en particulier cette semaine? On vous retrouve mardi prochain, cher Eric. Est-ce que vous savez que l'argent n'a pas d'odeur? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression? Nous allons la décortiquer et réfléchir à ce qu'elle signifie, et puis surtout réfléchir à ses origines avec Jean-Marc Daniel. À suivre, à tout de suite.
Tout pour investir, le coach.
L'argent n'a pas d'odeur. Comment dit-on ça en latin, Jean-Marc?
Pecunia non olet. Alors pecunia, ça veut dire l'argent. Je rappelle, j'avais déjà eu l'occasion d'en dire un mot. Pecunia, ça vient de pecus, le vulgum pecus, c'est le troupeau vulgaire. Le pecus, c'est le troupeau. Et donc la richesse pour les Romains, l'argent, c'est l'activité agricole et essentiellement l'élevage de bovins.
La propriété bovine.
Alors pecunia non olet, c'est associé à un empereur qui est Vespasien. Vespasien, il règne sur Rome entre 69 et 79. Quelques éléments de contexte que je rappelle à nos auditeurs téléspectateurs, pour ceux qui auraient oublié leur cours de latin et leur cours d'histoire romaine.
Contexte très contemporain
d'ailleurs.
Un prédécesseur qui aurait vidé les caisses.
Voilà, exactement. En fait, en 64, donc...
64 d'avant notre ère.
Non, après notre ère, en 64, nous sommes en 64.
Ah oui, après, oui, pardon, et en 0064.
Voilà, 0064. Et donc en 64, Rome est incendiée, l'empereur de l'époque c'est Néron, on ne sait pas très bien si c'est lui qui est à l'origine de cet incendie, il va accuser les chrétiens, c'est la manifestation pour la première fois de l'existence de cette religion, et il engage donc des travaux de reconstruction qui ne débouche pas avant sa mort, puisqu'il est assassiné en 68. 69, c'est une année qui est une année où Rome connaît plusieurs empereurs, des guerres civiles, des affrontements, et Vespasien triomphe. Et il arrive avec un programme de reconstruction qui est énorme.
Les infrastructures.
Suétone, qui est l'historien romain qui a écrit cette période, qui a décrit cette période de l'histoire de Rome, parle de 4 milliards de sesterces. Et les historiens, depuis, ont évalué à 10 milliards de sesterces le PIB de l'Empire romain. Donc le coût de la reconstruction de Rome représentait 40% du PIB. Il fallait donc trouver énormément de recettes. On fait des propositions à Vespasien, on lui propose d'abandonner la construction d'un bâtiment qui existe encore, qui est le Colisée. Et Vespasien dit non, je garde le Colisée, mais je vais trouver de nouvelles recettes pour financer sa construction. Et donc Vespasien réfléchit au fait que, dans l'occasion de la réorganisation de Rome, que l'on reconstruit, on va installer un peu partout des amphores dans lesquels les gens vont pouvoir se soulager, c'est-à-dire vont pouvoir uriner. Et l'idée vient à Vespasien de récupérer cette urine et de la revendre à un certain nombre de gens qui utilisent à l'époque l'urine comme un détergent.
Notamment les teinturiers. Il y a toute une industrie de la teinturie qui est basée sur l'urine à l'époque.
Sur l'urine, sur l'urine. Ça fonctionne sur l'urine et des esclaves, parce que pour manier l'urine, à la différence de l'argent, a une odeur. Et alors justement, cette idée heurte un certain nombre de sénateurs. Il faut dire que Vespasien est d'origine plébéienne. Il appartient à une très vieille famille de plébéiens qui ont été tribuns de la plèbe. Et au Sénat, c'est encore les patriciens qui dominent. Donc, il a un problème de légitimité vis-à-vis de l'élite romaine. Donc, on lui fait son procès de façon assez régulière. Et en particulier, on lui fait le procès d'utiliser l'urine pour gagner de l'argent. Et son fils qui le défend... rapporte à Vespasien l'attaque dont il a été l'objet à cause de l'utilisation de l'urine pour récupérer des recettes fiscales. Et Suétone raconte qu'à ce moment-là, Vespasien prend un sesterce et puis il le montre à Titus, son fils, et lui dit « Ça sent là, qu'est-ce que tu sens ?» Et Titus dit « Mais rien. » Et bien oui, parce que pecunia non olet, l'argent n'a pas d'odeur. L'important, c'est d'avoir de l'argent, et cet argent n'a pas d'odeur. Ceux qui subissent les conséquences de ma décision, c'est les esclaves qui sont obligés de traiter l'urine, c'est les gens qui paient l'urine, mais l'argent, à la fin des fins, n'a pas d'odeur. Et donc, c'est vécu dans la saga fiscale mondiale historique comme étant une sorte d'appel à la diversification, à la capacité à utiliser tout ce qui peut rapporter de l'argent pour essayer d'équilibrer les comptes publics.
Cette chronique appelle beaucoup de réactions en direct de nos auditeurs. Jean-Marc, pardon, je vous coupe, mais parce que, par exemple, on a Jean-Jacques qui nous répond « Oui, l'odeur, l'argent a une odeur, il suffit de sentir une liasse de 20 billets ».
Oui, alors on peut effectivement se poser la question des techniques d'imprimerie, puisque...
Certainement là... pour être détecté par les chiens renifleurs.
Oui, absolument. Les billets ont effectivement une odeur. L'argent électronique a de moins en moins d'odeur. Et l'argent d'autrefois, qui était du métal, avait des odeurs. Le cuivre a une certaine odeur. Et ce qui est important dans le discours de Vespasien, c'est le symbole. C'est le symbole. C'est l'association à quelque chose qui est assez vil et qui est quelque chose qui exprime... une sorte de bassesse humaine, même si c'est indispensable d'aller se soulager, et de l'associer à l'action de l'État. Ce qui est intéressant dans la démarche d'ailleurs de Vespasien, c'est que Vespasien associe cette action non seulement à la recette fiscale, mais aussi à des problèmes d'hygiène. C'est-à-dire, en mettant en place des amphores dans les rues de Rome, dans le Rome qu'on est en train de reconstruire, il s'agit effectivement de faire en sorte que les rues de Rome, elles, cessent d'avoir une odeur. Et ensuite...
Oui, on parle d'infrastructure urbaine.
Absolument. Ensuite, Suétone cite aussi un autre empereur qui est Tibère. Et Tibère, donc, c'est le successeur de d'Auguste, c'est le prédécesseur de Caligula. Et Tibère a été un des premiers personnages de l'histoire à être confronté à une crise financière. Et donc, le système embryonnaire de la finance fait faillite. L'État renfloue.
On est en quelle année, Jean-Marc ?
On est au tout début de l'ère chrétienne. On est vers au tout début de l'ère chrétienne, et Tibère va avoir comme réflexion pour remonter les caisses publiques qui ont été associées et qui ont été mobilisées pour compenser le krach des banques de romaines. Il dit la bonne politique fiscale, ce n'est pas d'écorcher le mouton, mais c'est de le tondre. Le mouton est tendre. Et c'est un principe qui est un principe, là aussi, qui est assez général. C'est-à-dire, il faut jamais aller trop loin, il faut être capable de récupérer de l'argent sur le contribuable, mais pas de tuer le contribuable. Trop d'impôts tue l'impôt.
Tondre le mouton, ne pas tuer la poule aux œufs d'or. Il y a plein d'expressions autour de l'argent. Tous les mardis, on les décrypte avec vous, Jean-Marc. Bon, l'argent n'a pas d'odeur. Vous nous avez expliqué les origines. On comprend évidemment le symbole. Maintenant, cette expression a un petit peu évolué. Aujourd'hui, on s'en sert un petit peu pour dire que peu importe d'où provient l'argent, même s'il est mal acquis, le principe, c'est d'en avoir.
Absolument, oui. L'argent n'a pas d'odeur à dépasser le simple cadre fiscal. D'abord, sur le plan fiscal, ça a servi à justifier tout un tas d'impôts. Donc, l'histoire de la fiscalité mondiale nourrirait de nombreuses chroniques du mardi, de l'impôt sur la barbe, l'impôt sur le savon, l'impôt sur la nouvelle lune, tout un tas d'impôts ont pu être conçus à un moment donné. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée s'est étendue à l'argent privé. C'est-à-dire que, à la fin des fins, effectivement, ce qui est important, c'est de réussir, tout en restant malgré tout dans le cadre légal. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de justifier systématiquement le recours au crime pour gagner de l'argent. Mmh. Mais une fois qu'on reste dans le cadre légal, le fait de faire de la morale aux gens qui gagnent de l'argent est vécu comme étant totalement déplacé. Mmh. L'argent n'a pas d'odeur. Vous avez gagné de l'argent, vous avez acquis cet argent de façon efficace, puisque vous avez gagné de l'argent, et vous êtes resté dans le cadre légal, on n'a aucun reproche à vous faire.
L'argent, le salaire a-t-il une odeur ? Non, ce serait un autre débat d'abord, c'est ça.
Alors, on reviendra sur le mot salaire. J'expliquerai d'où vient le mot salaire dans une autre chronique. Il ne faut pas gâcher l'avenir.
Maëlle, qui nous suit quotidiennement, nous dit l'argent a tellement d'odeurs différentes. Bon, reste qu'on utilise beaucoup d'expressions. Il y a l'argent sale et puis il y a blanchir l'argent. Est-ce que ce sont les mêmes origines que l'argent n'a pas d'odeur ?
Non, ce n'est pas la même origine. L'argent sale, effectivement, c'est l'argent du crime, c'est l'argent qui est mal gagné. Et donc, l'argent sale, l'expression apparaît au XVIIIe siècle où on considère que certaines formes de certaines façon de gagner de l'argent et de l'argent malhonnête, de l'argent qui certes n'a pas d'odeur mais qui salit d'une certaine façon celui qui l'a gagné. En particulier, c'est ce qui va faire la différence entre le noble et l'aristocrate d'un côté et le bourgeois de l'autre. Mmh. C'est-à-dire le bourgeois, il peut gagner de l'argent en faisant certaines choses. L'aristocrate, il y a des choses qu'il ne peut pas se permettre. Notamment au moment de la spéculation autour de John Law, la question qui s'est posée, c'est à l'époque, c'est est-ce que les aristocrates peuvent s'associer à cette opération qui est une opération dans laquelle il y a des banques, il y a des gens qui sont assez peu recommandables. Et l'argent sale, c'est aussi l'argent qui va être gagné au travers du prêt, de l'usure, de tout un tas d'opérations qui sont des opérations financières où il n'y a pas derrière du travail, puisque normalement l'argent noble, c'est l'argent qui est issu soit du travail pour le bourgeois, soit de la gestion de son domaine patrimonial pour le noble. Et donc blanchir l'argent, c'est faire en sorte qu'il cesse d'être sale, et l'argent sale, c'est celui qui est gagné de façon indigne. On déroge quand on gagne de l'argent sale, et maintenant l'argent sale, c'est celui qui est gagné de façon carrément criminel.
Bon, et blanchir l'argent, on revient à cette histoire de teinturerie ?
Non, on revient simplement qu'en face de l'argent, il y a de l'argent sale, et donc la façon de faire en sorte que quelque chose cesse d'être sale, c'est le blanchir, c'est lui donner une nouvelle couleur, effacer la couleur de la saleté qu'il portait. Alors, blanchir de l'argent, au début, c'est plutôt assez positif, et puis ça devient assez vite un mensonge. C'est-à-dire, celui qui blanchit l'argent, c'est celui qui cache la réalité d'où vient cet argent.
C'est celui qui enlève toute trace des origines de l'argent.
Les taches sur l'argent.
C'est l'anti-blockchain et l'anti-bitcoin.
Oui, je ne sais pas si l'argent sale, l'argent blanchi s'applique aux nouvelles technologies.
Nous en reparlerons. Jean-Marc, vous nous avez emmené environ 70 ans après le début de notre ère, quand le nouveau souverain Vespasien doit trouver un moyen rapide de renflouer les caisses de l'Empire.
Juste un dernier mot, la trace qu'il a laissée, c'est pas uniquement cette expression, c'est aussi le lieu qui est
les Vespasiennes.
De cette expression, les Vespasiennes en français, comme dans beaucoup de langues, c'est un lieu où on se soulage.
Les Vespasiennes, car oui, c'est un synonyme de toilette pour ceux qui découvraient ce mot avec nous, et tant mieux si on participe à votre vocabulaire. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel. Si vous aussi, vous avez une idée d'expression ou de mots sur lesquels vous voulez que Jean-Marc travaille, planche et sur lesquels il peut partager sa culture, vous l'avez vu, sans limite sa culture financière et économique, et bien vous nous écrivez, l'adresse c'est direct@bfmbusiness.fr ou sur LinkedIn, vous m'écrivez en direct comme Maëlle et comme Jean-Jacques, et vous venez participer à la fabrication de cette émission. On marquerait une rapide publicité, après c'est l'heure de l'actu. Et puis après, c'est l'heure du point sur les marchés. Vous le suivez peut-être depuis le début de la séance, le CAC 40 et les bourses européennes qui sont dans le rouge. Là, alors on se parle, le CAC qui est autour de 7943 points, en baisse de 1,2%. Et puis à suivre, on parlera aussi de la Chine. Est-ce que la Chine est en train de se japoniser ? Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça aurait des répercussions sur l'économie ? Et jusqu'à nous, investisseurs particuliers, nous en parlons dans la deuxième partie de Tout pour investir. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business.